Il y a du sang, là, par terre. Des traînées rouges sur cette route de campagne qui relie le village fribourgeois de Sansal au village vaudois de Maracon. La piste sanglante mène vers le petit ravin en contrebas. On voit sous les arbres et dans les buissons un soulier, un peigne, un sac à main. Au bord du lit de la rivière, il y a deux cadavres encore tièdes. Hélène est sur le dos, Marie-Thérèse est sur le ventre. Elles viennent d'être tuées par balle.
Crime suisse.
Bonjour, je suis Antoine Droux et dans Crime suisse, je vous raconte des affaires criminelles qui se sont passées dans mon pays. Cette Suisse en apparence si sage, si propre en ordre, si bien rangée, mais dans laquelle aussi on tue, on assassine, comme partout ailleurs. Vous êtes nombreux à écouter ces histoires vraies qui racontent la violence et la mort, mais qui racontent surtout des époques, des lieux, des communautés. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager avec d'autres ces histoires qui nous rappellent qui nous sommes, d'où l'on vient, et qui, aussi, nous tendent un miroir. Crime suisse, épisode 10, double meurtre entre Sansal et Maracon. Dimanche 19 juin 1949, 14h15. Nous sommes à Sansal, dans le sud du canton de Fribourg. Hélène Monard et Marie-Thérèse Beauvais viennent d'assister aux vêpres dans une église bondée. Les deux jeunes femmes sont impatientes. Elles veulent se rendre à Bossonance pour faire la fête à une kermesse. C'est vrai que, quand on a 17 et 18 ans, dans la Suisse rurale et pauvre de l'après-guerre, une occasion de s'amuser un peu ne se refuse pas. Sur une photo prise la veille et publiée bien plus tard dans la presse, on voit les deux jeunes femmes côte à côte, souriantes, resplendissantes. Hélène Monard porte une robe blanche au motif imprimé de fleurs, avec un col fin et long, nez droit et pommettes assez hautes. Son menton est légèrement pointu. On devine des yeux clairs sur la photo en noir et blanc. Peut-être sont-ils bleus ? Sa bouche est fine, avec de légères commissures au coin des lèvres. Hélène est couturière au village. Elle a trois frères et on ne lui connaît pas de petite amie. Pas d'ennemis non plus. Appréciée pour sa franchise et son bon caractère, elle est mascotte de la fanfare. La main gauche d'Hélène Monard est posée sur l'épaule droite de Marie-Thérèse Beauvais, qui est vêtue d'une robe à la teinte claire, avec une mince ceinture noire autour de la taille et quelques perles autour du cou. Le menton de Marie-Thérèse est rond, ses joues joyeuses. Ses yeux sont foncés et son nez un peu en trompette. Elle plaît aux jeunes hommes de la région, qui sont plusieurs à lui faire la cour en lui écrivant des lettres maladroites. Marie-Thérèse est l'aînée d'une fratrie de 12 enfants. Elle a été sommelière au Café du Sauvage et travaille désormais à la boulangerie Cholet. C'est une bonne place. Elle a enfin congé le dimanche. Ces derniers temps, elle paraît inquiète. Elle ne veut plus aller chercher de l'eau à la fontaine. Son père a beau lui demander ce qui ne va pas, elle ne lui dit rien. Leur coupe est typique de l'époque. Dans les salons de coiffure, on appelle ça les rouleaux de la victoire. Cheveux qui touchent les épaules, très souples, en grandes vagues, avec une mèche au rouleau sur le dessus de la tête. Sur la photo, en arrière-plan, on voit les épaisses forêts de la région.
Nous évoquons ce soir un village fribourgeois du district de la Veuvaise, Sansal. Sansal était autrefois une seigneurie et un prieuré dépendant du couvent du Grand Saint-Bernard. En 1830, un incendie le détruisit presque complètement et il fut reconstruit grâce à la générosité du pays tout entier qui vint en aide au malheureux village. Sansal, sur la route de Bulle à Vevey, pas loin de Châtel-Saint-Denis, est aussi une station du chemin de fer de la Gruyère. C'est un grand village campagnard de près de 1000 habitants. Les fermes aux toits brunis, toutes claires dans le vert de l'herbe, entourent l'église. Bonsoir à Sansal, à ce grand et beau village fribourgeois. Bonsoir à ses habitants, au révérend prieur Tena, au syndic Balma, au grand, au Perrin, au Suchet, à toutes ces vieilles familles de là-bas. Et bonsoir à tous nos amis de partout.
Après la messe, Marie-Thérèse et Hélène ratent leur train, de peu. Alors, elles décident de se rendre à la kermesse de Bossonnance à pied, même si c'est pas la porte à côté. Elles devront marcher 9 km environ, en passant par la commune vaudoise de Maracon. Elles en auront pour plus d'une heure et demie, au moins, s'entraîner. Cela dit, c'est un beau dimanche aujourd'hui. La journée est agréable. Il fait une vingtaine de degrés et la route qu'elles empruntent est confortable. C'est vrai qu'en 1949, le trafic routier n'est pas très intense. Leur trajet tiendra davantage de la longue promenade campagnarde que de l'exigeante randonnée montagnarde. Elles quittent Sansal à 14h20 sans savoir qu'elles ne reviendront jamais. Marie-Thérèse Beauvais et Hélène Monard marchent un peu plus de 2 km. Elles franchissent la frontière entre les cantons de Fribourg et de Vaud. La démarcation suit à cet endroit le tracé de la Broye, cette rivière qui coule à quelques dizaines de mètres sur leur gauche. On devine quelques fermes au bout des champs, derrière les haies, au creux des arbres, parmi les forêts. Les deux jeunes femmes sont désormais sur le territoire de la commune de Maracon. Elles marchent encore 1 km jusqu'à ce petit bois qui borde la route, là où il y a un ruisseau encaissé dans un petit ravin. C'est ici, au lieu dit le pont de Corjon, qu'elles sont tuées vers 15h. Une balle chacune. Le temps s'écoule doucement. On est presque le jour le plus long de l'année et il fait encore clair quand le premier témoin arrive sur les lieux vers 19h30. L'agriculteur est ici chez lui. Sa famille est propriétaire d'un champ là, ainsi que d'une petite forêt. Il marche d'un bon pas dans le soir tombant à la rencontre de sa femme et de ses 3 enfants qui sont arrivés un peu plus tôt par le car postal à Maracon. En passant à proximité du courgeon, le paysan remarque que l'herbe a été foulée, aplatie. Il se dit que c'est embêtant, que ça va pas aider pour faucher. 3 ou 4 pas plus loin, il voit des taches de sang sur la route. Il tourne les yeux vers le lit du ruisseau et aperçoit des objets au sol. Un peu plus loin, entre les arbres, il distingue une jambe curieusement pliée dans un rayon de soleil. Il s'approche encore et voit alors 2 corps de femmes, immobiles, ensanglantés. L'homme se dépêche de retrouver son épouse et ses enfants le long de la route. Il leur fait faire un détour pour éviter la zone, puis se précipite au village et donne l'alerte. Roger Pahut, gendarme vaudois au poste de Palézieux-Gare, arrive à moto 10 minutes après ce coup de fil. Il est bientôt rejoint par le caporal Pache, son collègue d'Oron la ville. Les deux hommes s'approchent des cadavres. Ils voient en passant un sac à main et un peigne posé dans l'herbe. Au milieu des arbres, Marie-Thérèse Beauvais est allongée sur le ventre, le bras droit posé le long du corps, le gauche replié dans le dos. Il lui manque un soulier. C'est celui qui est là, plus haut, dans le talus. Hélène Monard est couchée sur le dos, les bras en croix. Sa jupe est remontée jusqu'à sa taille, révélant ses bas et ses sous-vêtements. Sa jambe gauche est curieusement pliée. Toutes les deux sont blessées au visage. à la tête. Jean-Pierre MacDonald arrive sur place à 21h. Le reporter de la Nouvelle Revue de Lausanne a été prévenu par une source bien informée qu'il se passait quelque chose du côté de Maracon. C'est le seul journaliste à assister à la scène. Il voit les phares des automobiles qui découpent des ronds dans les ombres du paysage. Il devine les deux jeunes filles étendues à quelques pas de là, visage tuméfié, bas déchiré. Il croise une brave paysanne qui tient un bidon à la main et qui sert du thé aux gendarmes. Dans son premier article consacré à l'affaire et paru le 20 juin 1949, Jean-Pierre MacDonald décrit aussi l'attroupement sur la scène de crime. C'est qu'il y a du monde. Des gendarmes, le commandant de la police cantonale vaudoise, des inspecteurs de la sûreté, un juge d'instruction, des médecins, le syndic, l'agriculteur qui a donné l'alarme, des curieux des deux cantons de Vaud et de Fribourg. Mais à propos, elle passe où déjà la frontière cantonale exactement? Par ici ou par là-bas? Pour l'instant, alors que la nuit tombe sur les champs, la police penche plutôt pour un accident de la route, à cause des traces de sang sur la chaussée, à cause des blessures au visage des deux femmes. Elles ont peut-être été renversées par une voiture, avant d'être cachées dans le ravin par un chauffard qui a pris la fuite. Peut-être même que les corps ont été projetés en contrebas, sous la violence du choc. Des barrages routiers sont installés dans toute la région. Toutes les voitures qui passent sont examinées. On vérifie les carrosseries dans la nuit, à la recherche des traces qu'aurait pu laisser un tel choc. Mais on ne trouve rien. L'obscurité engloutit la campagne. Il fait maintenant trop noir pour continuer les recherches sur place. Alors tout le monde quitte les lieux, sauf les gendarmes, Pahut et Pache. Eux vont rester toute la nuit au bord de la rivière pour s'assurer qu'il n'arrive rien de fâcheux au cadavre de Marie-Thérèse Beauvais et d'Hélène Monard qu'on a laissé là. En 2004, plus de 50 ans après les faits, le journaliste Jean-Pierre MacDonald se souvient de cette soirée dans le film documentaire « Le Poison », un film diffusé il y a 20 ans par la RTS dans le cadre de l'émission « Temps présent ».
Ma première impression, c'est un certain désarroi. Que faire? Comment faire? Alors qu'on n'en avait visiblement pas l'habitude. Ça a créé justement un grand problème le soir même parce qu'on ne savait pas où était la frontière. Alors était-ce sur Vaud ou sur Fribourg? Qui allait voler le crime à l'autre? Il y avait aussi que les Vaudois, protestants, détenant la vérité, pensaient que les Fribourgeois étaient absolument incapables de conduire une telle affaire. On a remis au lendemain. Et le lendemain, le professeur Tellin, légiste du canton, va sur place et avec ses doigts, il palpe les cadavres. Sans aucune espèce de précaution. Et puis, bien entendu, que le syndic et deux ou trois ont tourné là autour comme si on faisait une danse du scalp.
Tôt, le matin du lundi 20 juin 1949, les cadavres sont disposés sur un char. Il est tiré par un cheval à travers la campagne jusqu'à la salle communale de Maracon. Là, on porte les corps sur la table du conseil, où les autorités règlent habituellement les affaires du village. Les premiers examens excluent la thèse de l'accident. Les deux jeunes femmes ont été touchées sur le haut du corps par des balles de petit calibre, le même genre de munitions qu'on utilise pour tuer des petits animaux, comme des lapins. Puis les corps sont transportés à l'Institut d'anatomie pathologique de Lausanne pour être autopsiés par les professeurs Tellin et Nico. L'analyse balistique est confiée à Marc Bischoff, le directeur de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. Même si les deux jeunes femmes sont de Sansal, donc fribourgeoises, leurs corps ont été retrouvés à Maracon, dans le canton de Vaud. C'est donc à la Scrette vaudoise que revient l'enquête, sous la houlette du juge d'instruction Jean-Noël Emery, en collaboration avec les autorités de Fribourg. La Scrette. C'est comme ça qu'on appelle la police de sûreté à l'époque. Une police judiciaire qui n'a rien de vraiment secret, mais comme ces inspecteurs travaillent en civil, on les remarque moins que les traditionnels gendarmes en uniforme. Enfin, on les remarque moins, sauf quand ils débarquent de Lausanne en pleine campagne dans leur grosse et puissante voiture de ville, celle avec une immense antenne de radiodiffusion fixée à la carrosserie. Une avancée technologique qui a révolutionné le travail des forces de l'ordre et que saluait, à la fin des années 30 déjà, Robert Jacquillard, commandant de la police cantonale vaudoise sur les ondes de la RTS.
Le poste vaudois de radiopolice, installé à la police de sûreté à Lausanne, a été mis en service le 6 juillet 1938. Dès lors, il a fonctionné régulièrement, recevant chaque jour des communications de Suisse ou de l'étranger et en diffusant de son côté. Alors que les malfaiteurs emploient tous les moyens de locomotion rapide modernes et franchissent les frontières avec souvent plus de facilité que les honnêtes gens, seule une liaison immédiate entre les centres policiers est susceptible d'un rendement effectif. C'est ainsi qu'à diverses reprises, nous avons pu obtenir de plusieurs pays européens des renseignements dans les 24 heures, alors qu'auparavant, un délai notablement plus long était nécessaire.
D'emblée, l'enquête sur le crime de Maracon s'annonce compliquée. Les inspecteurs en civil de la sûreté font partie d'une police citadine, habituée à une délinquance citadine. Ils sont mal perçus dans cette campagne qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ici, ce sont les gendarmes qu'on connaît, qu'on voit souvent. Mais cette police de proximité doit maintenant s'effacer devant les inspecteurs. Ce sont eux qui sont chargés de l'enquête. Ils doivent aller de ferme en ferme, de village en village, pour récolter les dépositions, recouper les informations. C'est long, c'est difficile. Surtout quand on vous parle dans un patois fribourgeois que vous ne comprenez pas.
Nous allons voler puissant, chibidjois dans nous son pays.
Nadaquer ton bras, nous en rien après
il y a que ces gens, il y a du temps la guerre. On conseillait des perles de Jacques, nous faillons adimer nos tignes.
Rapidement, plusieurs témoins sont entendus. Émile Fonjala, municipal à Écoteaux, qui roulait à vélo vers 11h près du pont de Corjon, a aperçu un homme vêtu d'un polo rouge allongé dans le champ. À son passage, l'homme s'est brusquement redressé, puis il s'est recouché. Un automobiliste affirme avoir vu sur cette route un individu parler paisiblement avec les deux jeunes femmes vers 14h30. Le jeune Hubert Descoster a lui aussi aperçu un homme cet après-midi-là. Des années plus tard, il témoigne dans le film de Stéphane Goël, intitulé « Le poison, le crime de Maracon », sorti en 2004.
J'avais été au barrage de Rossens, puis je rentrais du barrage de Rossens, à vélo. Puis c'était, je crois, 3-4 heures l'après-midi, je ne me souviens pas l'heure du crime. Les signalements que j'ai donnés, ça correspondait juste parce qu'il y avait le train qui passait à Sansal. Après, j'ai croisé le bus, donc les horaires correspondaient. Et puis j'ai rattrapé les deux filles là-bas vers les écriteaux. Et puis j'ai vu là, un gars qui descendait ici le long de la haie. C'est tout ce que j'ai vu. Vous voyez, il n'y avait personne. Hein? Puis je l'ai vu le long de la haie. Là, je me suis retourné, je l'ai regardé. Puis j'ai continué mon chemin. Alors il a flingué les filles 5 minutes après, hein, quand elles sont arrivées. Je crois qu'elles étaient au bord du ruisseau là-bas en bas. Donc pour descendre deux nanas puis les prendre les deux, il faut déjà être un tout seul. Je ne sais pas s'il le fait. Hein?
Les policiers s'intéressent aussi à une agression commise le long de la même route 6 semaines plus tôt. Le 8 mai 1949, un inconnu a tiré sur une jeune femme avec une arme de petit calibre avant de la violer. Le père de la victime blessée par balle l'a soignée avec de l'eau oxygénée avant d'appeler un médecin qui l'a emmenée à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis. Mais comme l'opération coûtait trop cher pour la famille trop pauvre et que la balle ne dérangeait pas trop la blessée, il a été décidé de la laisser dans l'épaule de la victime. Le père a dénoncé l'agression à la police, mais l'enquête de M. Kellin, juge d'instruction du district de la Veuvez, n'a abouti à aucun résultat. L'agression a été vite oubliée jusqu'au double meurtre. C'est donc avec encore une balle dans l'épaule que la jeune femme participe le 7 juillet 1949 à une reconstitution de l'agression qu'elle a subie. Cette reproduction est ordonnée par le commandant de la police cantonale vaudoise, Robert Jacquillard. On ne la lui fait pas à Robert Jacquillard. Colonel à l'armée, il a un passé dans le contre-espionnage, à l'état-major général. C'est un dur, même si derrière son dos, ses hommes le surnomment « Jonquille ». De retour sur les lieux, la jeune femme raconte sa journée du 8 mai, un dimanche. Elle marche sur la route Maracon-Sansal quand un individu à vélo s'arrête près d'elle. Un bouquet de narcisses est attaché au guidon de sa bicyclette. L'inconnu l'attrape. Elle se débat, veut s'enfuir. Il sort un pistolet, tire pour la stopper. Elle s'effondre. Il lui donne un coup de crosse au visage, puis la traîne plus loin, au bord du ruisseau. C'est là qu'il la viole. Et ensuite ? Ensuite, il enfourche son vélo et il part. Le colonel Jacquillard a des doutes. Pourquoi la jeune femme a-t-elle cessé de crier pendant le viol ? Comment a-t-elle réussi à faire tout ce chemin avec une balle dans l'épaule ? Pourquoi ses vêtements n'ont pas été endommagés ? À quel âge a-t-elle eu ses premiers rapports sexuels ? Combien d'amants a-t-elle déjà eu ? S'est-elle vraiment opposée au forfait ? La jeune femme affirme que oui. Un arrangement financier avec les autorités est trouvé. Il s'agit de payer l'extraction de la balle. Une fois l'opération réalisée, le projectile est envoyé à la police scientifique. Durant la même période, un avis de recherche est publié. La police recherche deux suspects. Celui du 8 mai, 45-50 ans, 170-180 cm, plutôt mince. Visage maigre, pommettes légèrement saillantes, teint mat, cheveux foncés grisonnants, coupés en brosse, yeux très foncés, brillants, nez assez grand, pointu. Celui du 19 juin, 35 ans environ, 180 cm environ, corpulence moyenne, cheveux brun clair, peigné en arrière. Visage allongé, teint bronzé, vêtu d'un maillot à longues manches rouges piqué de petits points blancs. L'avis de recherche, en haut duquel s'étale en immenses lettres capitales le mot « assassinat », se termine ainsi. « Appelez la police de sûreté vaudoise au 3 11 21. Anonymat garanti. Récompense jusqu'à 1000 francs pour tout renseignement. » La feuille est envoyée à 3500 ménages vaudois et fribourgeois. Elle est aussi placardée dans de nombreuses communes des deux cantons. À Lausanne, le professeur de sciences criminelles Marc Bischoff rend ses conclusions. La balle numéro 1, celle extraite de l'épaule de la jeune femme agressée le 8 mai, est très abîmée. C'est un projectile en plomb qui provient d'une cartouche de 6 mm, une munition utilisée pour les pistolets et carabines de type Flaubert. Ce sont des armes légères, dont le rayon d'action est faible, de 15 à 20 mètres. Elles sont souvent utilisées dans les campagnes pour lutter contre les animaux pas trop gros, comme les lapins. La balle numéro 2, celle qui a tué Hélène Monard, est un projectile en plomb cylindrique à pointe en ogive. Le projectile a un calibre 22 cours pour pistolet match, fabriqué à Thun, dans le canton de Berne. La balle numéro 3, celle qui a tué Marie-Thérèse Beauvais, est identique à la balle numéro 2. Les balles 2 et 3 ont probablement été tirées par la même arme, dit l'expert. Impossible, en revanche, de déterminer avec certitude si la balle 1 a aussi été tirée avec le même flingue. C'est possible, mais c'est pas sûr. Quant aux autopsies, elles montrent qu'Hélène Monard a reçu la balle de face, tandis que Marie-Thérèse a reçu la balle de dos. Les projectiles ont provoqué des hémorragies massives qui ont entraîné la mort en quelques minutes. Pas de lésions ni de traumatisme sur les organes génitaux. Pas de viol. Aucune des deux n'était enceinte, précise le rapport d'autopsie. Selon les médecins, les deux jeunes femmes se sont effondrées sur la route, juste après les coups de feu. Elles ont ensuite été traînées par les pieds, agonisantes, jusqu'au bord de la rivière. C'est ce qui explique les visages tuméfiés, les blessures aux têtes, et qui contredit la rumeur qui dit qu'elles ont livré une lutte acharnée pour se défendre. Dans les semaines qui suivent le crime, plusieurs hommes sont brièvement arrêtés, puis relâchés. 6 armes sont saisies. Aucune n'a servi pour le crime. Les inspecteurs de la sûreté privilégient la piste du sadique qui rôde à travers champs. Les gendarmes, eux, s'intéressent à l'entourage immédiat des deux femmes. Mais ce n'est pas leur enquête. Ils sont écartés. Les jours passent et la campagne se met à bouillonner. À Sansal, l'abattement fait place à la colère. La tranquillité de ce coin de pays vole en éclats.